Voilà donc, je pense, l'essentiel de cette pensée de Newman extrêmement originale, parce que à son époque, on était peu habitué à penser de manière historique et en prenant en compte l'idée d'un développement. À l'époque où Newman a développé cette doctrine, la théologie était dominée par une néo-scolastique qui admettait au maximum qu'on peut déduire logiquement de certaines doctrines d'autres doctrines. Un développement par déduction logique. Newman a adopté une pensée beaucoup plus riche humainement et aussi historiquement, à savoir que, à la manière d'un organisme vivant, l'idée chrétienne se développe, pas seulement par déduction logique, elle se développe comme une vie, mais en fidélité à l'origine, mais en même temps en sachant tenir compte des divers contextes de l'histoire. Peu de gens à son époque pensaient comme cela. Peu de gens. Newman a remplacé une logique purement rationnelle, purement conceptuelle, par une logique qui était celle du vivant, qui se déploie, mais en continuité avec son principe fondateur. Dans les années, donc l'essai sur le développement date de 1844-1845, Newman a été amené à retravailler encore une fois la question à la fin des années 60. Pourquoi ? Parce que à cette époque-là, il y avait le grand débat préparatoire au Concile Vatican I sur l'infaillibilité pontificale. Il y avait les partisans, il y avait les opposants. Et Newman a été du côté des partisans, je dirais des partisans éclairés, des partisans intelligents, en comprenant pourquoi il faut tenir que le pape, dans certaines circonstances, est infaillible. Et il était provoqué par certains écrivains en référence à cette discussion très vive à propos de l'infaillibilité pontificale qui fut proclamée lors du Concile Vatican I en 1870. Newman a été amené à préciser encore sa conception du développement. Il le fait de la manière suivante, dans un mémoire qu'il a écrit en 1868. Et tout d'abord, un premier point qu'il tient beaucoup à rappeler avec insistance, c'est que la révélation est close avec le dernier des apôtres. Il ne peut être question d'envisager une croissance du dépôt vivant de la foi. Par addition successive de vérités qui ne seraient pas contenues initialement en lui. Le développement ne se fait pas par ajout, il se fait par explicitation de ce qui est présent dès l'origine, donc dès l'âge apostolique. La révélation est close avec la mort du dernier des apôtres. Et donc il faut, selon Newman, que les apôtres aient eu, avec la révélation qui leur a été transmise, la connaissance de tout ce que l'Église, dans la suite des temps, a été conduite à préciser et à expliciter. À condition, bien sûr, de faire une distinction entre une connaissance globale et une connaissance explicite. Entre une connaissance intuitive totale et des énoncés. Mais il ose soutenir la thèse que les apôtres avaient une connaissance qui embrassait la totalité de l'idée chrétienne, la totalité de la révélation chrétienne. Mais dont une partie seulement, bien sûr, s'exprimait dans un discours explicite. Ce serait vraiment naïf de penser que Saint-Pierre avait déjà la connaissance explicite du dogme de l'Assomption de Marie ou de son Immaculée Conception. Mais, dit Newman, si on l'avait interrogé, si on avait creusé la question, si on l'avait invité à réfléchir, il aurait été capable d'aboutir à ce qui est devenu explicitement, à travers les siècles, la doctrine de l'Église catholique. Les apôtres n'ont évidemment pas eu une conscience claire de toutes les vérités explicitées par la suite, mais, je le cite, la foi leur donnait le regard surnaturel qui, dans la lumière de l'Esprit Saint, leur permettait de discerner, le moment venu, toute vérité incluse dans le message. Il y a chez les apôtres comme une sorte de connaturalité de la foi. Ils sont en symbiose, en complicité, en connivence avec la totalité de la foi. Et pour faire comprendre cela, Newman rappelle comment l'esprit humain ne peut pas maîtriser en même temps toutes les connaissances qui s'articulent dans un système de pensée avec leur connexion logique ou implicite. Par exemple, un physicien très bien formé, il connaît la physique, mais il n'a pas à tout moment une connaissance explicite de tout le développement de la physique. Mais si on lui en donne le temps, si les circonstances s'y prêtent et s'il est sollicité, il pourra détailler ses connaissances. Mais elles ne sont pas de manière détaillée à chaque moment présente à son esprit. Connaître, c'est avoir une vision qui perçoit l'unité et la cohérence de l'ensemble. Bien de la même manière, la connaissance que les apôtres ont eue de la révélation était une connaissance globale où tout était déjà implicitement contenu, mais où tout ne se monnayait pas encore, bien sûr, en énoncé explicite. Mais ils auraient été capables, le cas échéant, d'expliciter la connaissance qu'ils avaient pour donner réponse à toute question touchant la vérité de la foi. Vous connaissez l'humour de Newman, je le cite, « La terminologie scientifique n'était pas une des langues comprises dans le don de la Pentecôte. » Il n'a pas été donné évidemment aux apôtres le jour de la Pentecôte de pouvoir parler le langage de saint Thomas d'Aquin dans sa somme théologique au XIIIe siècle. Il n'était pas capable de parler la langue de Yves Congar ou de Jean-Denis Hélou ou de Hans von Balthasar, mais toute la richesse de la révélation chrétienne leur était présente, mais d'une manière qui demandait à être ensuite explicitée. Et la théologie et surtout la foi vivante de l'Église a consisté en ce que ce trésor s'est explicité au cours des âges conformément, pour reprendre une expression de saint Paul, à l'analogie, à la proportionnalité de la foi. Newman n'a pas été très bien compris de son temps. La plus grande partie de la théologie de son temps était une théologie très peu historique, très peu sensible aux dimensions historiques, très abstraite, souvent très conceptuelle, qui n'ont pas bien saisi le bel et grand enjeu de la pensée de Newman. Par ailleurs, il a été abusivement récupéré, mais il était déjà mort, donc il n'en a pas souffert, sur cette terre, il était récupéré par certains modernistes qui tenaient que les énoncés dogmatiques sont tout à fait relatifs, ce qui compte, c'est c'est le sentiment religieux qui s'exprime de manière contingente dans Thénotèque-dogme, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et certains modernistes ont cru pouvoir, à tort, récupérer Newman dans leur camp, comme si l'insistance de Newman sur l'agir sur l'histoire signifiait qu'il refusait d'attribuer à la raison et à la logique un rôle dans la connaissance de la foi. De même, certains modernistes ont cherché à récupérer l'importance qu'il accordait effectivement au sentiment, comme s'il méprisait la raison et l'importance des formulations dogmatiques. À tel point que Pidis, qui a tellement lutté contre le modernisme, Pidis a produit un bref spécial pour soustraire la pensée de Newman à cette récupération de sa doctrine sur le développement par le modernisme. Aujourd'hui, Newman peut mieux être compris dans sa véritable intention. Nous sommes devenus beaucoup plus sensibles à l'histoire qu'on l'était dans les siècles précédents. On a pu aussi dépasser le modernisme, assimiler ce qu'il y avait d'intéressant dans cette pensée, mais écarter le reste. Donc ce genre d'ambiguïté sont peut-être peuvent être aujourd'hui éliminées, et l'intérêt pour Newman est certainement aujourd'hui beaucoup plus grand qu'il ne l'a été dans les décennies antérieures. Et il est clair que Benoît XVI a été très heureux de pouvoir le béatifier, et que c'est dans son esprit, pour lui ou alors pour son successeur, que c'est pour lui un prélude à la reconnaissance de Newman comme docteur de l'Église. Déjà Jean-Paul II, je me souviens, lors d'une rencontre des évêques belges, lors d'une visite à Limina, Jean-Paul II recevait les évêques pour un repas. Benoît XVI ne fait plus ça parce qu'il doit ménager un petit peu son temps. Mais lors des visites à Limina, on rencontrait Jean-Paul II 4 fois, tous les évêques ensemble, pour un discours officiel du président de la conférence épiscopale et un discours du pape. Ils nous rencontraient chacun individuellement. Ils nous rencontraient aussi pour célébrer l'Eucharistie ensemble. Et nous rencontrer aussi pour un repas partagé. Et lors de la visite à Limina en 1997, si j'ai bon souvenir, il nous avait expliqué qu'il était très heureux de pouvoir bientôt proclamer Thérèse de l'Enfant Jésus docteur de l'Église, ce qu'il a fait en octobre de fête 1997. Mais il aurait bien voulu, en même temps, proclamer Newman docteur de l'Église. Et il disait, écoutez, il y a des Allemands, il y a des théologiens allemands qui me reprochent de proclamer Thérèse de l'Enfant Jésus docteur de l'Église parce qu'elle n'a écrit aucun traité théologique. Elle n'est pas une théologienne au sens académique du terme. Et donc, certains Allemands trouvaient que ça ne fait pas très sérieux. Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Enfin, il l'a proclamé. Mais, je disais, si je proclame en même temps Newman, un grand intellectuel, docteur de l'Église, ça ferait un bel équilibre. À la fois Newman et Thérèse. Seulement, il s'est heurté à la longue réticence de Newman à être l'instrument d'un miracle. C'est seulement assez récemment qu'on a pu reconnaître un miracle opéré par l'intercession de Newman, et c'est ce qui a permis de le béatifier, et maintenant on espère que ça va ouvrir la porte un jour à la proclamation de Newman comme docteur de l'Église. Ce serait une très très belle chose pour l'Église, et ce serait la consécration d'un itinéraire spirituel et intellectuel tout à fait exemplaire dans l'histoire de l'Église.